Hors-champ.
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 Hors-champ. Un temps suspendu, un pas de côté.
Pour un pas de côté.
Un regard.
Un regard vers les coulisses, les à-côtés de l'oralité, où de quoi peut aussi se nourrir une histoire.
C'était quand le temps était dans le temps.
Il y avait une fois.
Je vais vous raconter.
Bonjour à tous, vous êtes sur Sa Cause, S'écouter Sa Cause, la radio éphémère créée à l'occasion du festival de Chigny, du Comte de Chigny. Et je vous rappelle que vous nous écoutez sur 48FM, mais aussi sur les radios partenaires à Namur, à Bruxelles, entre autres. Alors dans le cadre de cette émission spéciale hors champ, j'ai le plaisir d'avoir avec moi par téléphone Pascal Dubois des éditions Oui Dire. Bonjour.
Bonjour.
Alors, avec vous, on va s'intéresser aux coulisses d'un label discographique de littérature orale. Mais d'abord, j'aurais voulu en savoir un peu plus sur vous. J'ai lu que vous veniez à la base de la musique. Alors, qu'est-ce qui vous a attiré vers le conte ?
Alors, ce qui m'a attiré vers le conte, c'est les conteurs. En fait, je travaillais en studio, ça remonte au millénaire dernier, en 97-98, et j'ai eu la surprise d'enregistrer un disque de contes. J'étais comme tout le monde, je connaissais pas spécialement ça. J'étais persuadé que c'était réservé, pas plutôt destiné aux enfants. Et donc je me retrouve en studio avec 5 ou 6 conteuses, je crois, et je fais mon boulot de réalisateur, j'enregistre, voilà. Donc c'était une séance comme une autre. Il se trouve que pendant cette séance, il y a une histoire, je suis rentré dedans au premier mot et j'en suis sorti 20 minutes après, je ne savais pas où j'étais, je ne savais pas ce qui s'était passé et je me demandais ce que l'on m'avait fait. En bon professionnel, j'ai quand même vérifié que le manito tournait et que personne ne s'était rendu compte de rien. Mais après, j'ai fait connaissance de la conteuse. J'étais à Grenoble à l'époque, il y avait un très beau festival de contes, qu'il y a toujours d'ailleurs. Et voilà, ma rencontre avec le conte, ça a été celle-là. Cette conteuse, c'est Claudie Aubin, elle avait un projet d'enregistrer 9 albums sur la mythologie grecque, elle ne trouvait pas d'éditeur. Et c'est, bon, pour faire rapide, c'est comme ça que la maison d'édition a commencé.
Alors, on va en parler plus longuement, mais moi j'avoue que avant de préparer cette interview, j'étais pleine de préjugés sur le conte. Et le premier, c'était que des productions comme les vôtres, en fait, étaient nécessairement tirées de livres. Or, c'est pas toujours le cas. Et c'est pas le cas chez vous.
Alors, c'est pas le cas chez nous parce que, alors moi, ce qui m'a plu d'emblée, c'est la parole des conteurs. C'est une oralité très singulière, c'est une parole qui est à la fois très forte et très fragile. Très différent de la lecture, c'est très différent du travail du comédien, c'est autre chose, hein. C'est ni mieux ni moins bien, c'est juste autre chose. Et c'est vraiment cette singularité de parole qui m'a plu. Donc lorsque l'idée a fait son chemin de créer un label discographique autour du travail des conteurs, c'est vraiment de mettre en valeur cette parole-là. Alors c'est plus facile à dire qu'à faire, c'est-à-dire que quand vous faites de la lecture, vous prenez un comédien, vous prenez un conteur, vous prenez qui vous voulez, vous lui donnez un texte, il n'y a pas de souci, même un texte, même un roman, en 3 jours c'est plié, et voilà, les gens savent faire, il n'y a pas de... Un conteur, on s'installe dans autre chose, c'est-à-dire que c'est une parole un peu plus instantanée. Alors, il y a énormément de travail en amont, c'est-à-dire que pour raconter une histoire qui va durer 1 heure ou qui va durer 5 heures, il y a beaucoup de boulot. Mais vous ne pouvez pas demander à une conteuse ou à un conteur d'arriver en studio et lui dire « bah voilà, écoute, ton histoire, elle fait 1 heure, donc demain, c'est plié, quoi ». Et donc, On est vraiment, on essaie de refaire en studio c'est des vraies conditions d'oralité. Et vu que l'on cherche à avoir les versions les plus sensibles, eh bien, on prend beaucoup de temps pour enregistrer. C'est-à-dire que pour un album parfois il y a 4-5 jours de prise de son, juste pour les voix, pour un album d'une heure, qui est complètement déraisonnable en termes de production, mais ce qui nous permet d'être au plus proche de l'oralité des conteurs.
C'est ça, et parfois donc on s'imagine que c'est juste une voix, de la musique, mais c'est pas du tout ça. Parfois il y a des grosses équipes derrière ces productions.
Oh bah, alors, tout dépend. Il y a des conteurs qui travaillent à voix nue, il y a des conteurs qui travaillent avec... quand on a fait le Mahabharata, il y a 22 musiciens, parce qu'il y a un gamelan qui joue, qui accompagne la conteuse. Tous les cas de figure sont envisageables. Il n'y a pas de règle, en fait. C'est un domaine artistique, c'est-à-dire que si vous avez un trio de musiciens, un conteur, eh bien... même peut-être parfois pour l'album, on va l'enrichir avec d'autres musiciens parce qu'on pense que pour l'album, ça serait intéressant. Mais on essaie quand même vraiment de respecter la mise en forme originale qui vient de la scène, qui a souvent été réfléchie. C'est-à-dire que dans les productions, notamment les productions jeunesse, il y a une quinzaine d'années, la musique était là vraiment comme un faire-valoir du texte. Maintenant, dans le travail de mise en musique des conteurs, il y a une vraie réflexion. La parole, la musique accompagne la parole, c'est comme une deuxième voix. Elle raconte autant, en théorie, elle raconte autant que le texte. En tout cas, quand c'est réussi, je pense que c'est l'objectif. Et là, ça prend toute sa pertinence. Parce que si c'est juste une simple mise en musique pour faire une mise en musique... ça n'a pas beaucoup de sens. Un récit oral, il n'a pas forcément besoin de musique pour exister.
Et j'ai lu que les conteurs expérimentaient parfois leur texte sur scène, avant de l'enregistrer. C'est juste ?
Souvent. C'est-à-dire que nous, on part... Alors, en fait, nous, c'est l'inverse. C'est-à-dire, exceptionnellement, parfois, on va enregistrer à la sortie des résidences de création. C'est-à-dire que le conteur a fait le travail de création. Et il se trouve que pour des questions de planning ou pour des questions d'envie aussi parfois, on va sortir l'album en même temps que la tournée du conteur. Bon, ça arrive quelquefois. C'est vrai que moi j'aime bien que la scène vienne peaufiner les récits, parce que les conteurs sont des gens très très sensibles au niveau du retour. Ils captent énormément l'énergie du public et ils se rendent compte instinctivement lorsqu'un récit fonctionne ou ne fonctionne pas. Et pour moi, c'est un travail de polissage qui est très précieux pour faire un bon album.
Mais concrètement, comment ça se passe alors ?
Je les enferme au studio, moi je vais au bar et puis ils se débrouillent. Comment ça se passe ? Non, alors c'est vraiment c'est un boulot, c'est un petit travail d'équipe. Généralement, c'est assez intime et donc il y a très peu d'éléments extérieurs. Il n'y a vraiment que les gens qui sont sur la production... donc les musiciens, ingé-son, réalisateurs, conteurs, mais personne d'autre. En fait, on est sur des moments fragiles, donc on ne peut pas avoir... faut qu'on reste en petit groupe. Après, moi j'ai une préférence pour enregistrer tout le monde en même temps, ce qui peut être compliqué au niveau technique parfois, mais on arrive toujours à s'en sortir... et par contre, c'est très agréable pour le conteur d'être porté parfois par la musique, surtout quand il a l'habitude de la scène et que la musique est présente. Donc pour lui, c'est si on lui enlève la musique à un moment, il a l'habitude de se reposer dessus, il va remplacer la musique par des mots. Enfin, on va être sur quelque chose de pas forcément, peut-être pas aussi pertinent.
Et alors, est-ce que c'est vous qui allez vers les conteurs avec une idée bien précise, ou alors est-ce que c'est les conteurs qui viennent vers vous avec des propositions, et est-ce que vous acceptez tout ?
Oula, ça fait beaucoup de questions en une seule. je reviens juste peut-être sur le sujet d'avant. J'ai oublié de dire un truc très important, c'est-à-dire autant les albums sont issus de la scène. Autant le geste artistique sur scène, les conteurs le dominent complètement, ce n'est pas exactement le même que celui de faire un disque. Donc on travaille beaucoup avec eux, comme on ferait un disque de rock'n'roll, ou comme on fait des pré-maquettes, il y a un travail de réécriture, on repense l'énergie qu'on donne sur la parole, la musique. Enfin, il y a vraiment un travail d'adaptation qui peut prendre quelques mois. Hein. C'est pas on prend un spectacle sur scène et on l'enregistre en studio, ça marche pas. Ça peut le faire, hein. Ça peut même donner des résultats très très bons, mais c'est plutôt l'exception.
Mais donc,
il faut vraiment faire ce boulot d'adaptation.
Et c'est quoi cette réadaptation? C'est une réécriture? C'est quoi? Il y a des tests qui se font? Enfin, comment est-ce que vous gérez ça?
Ben, généralement, on part d'un enregistrement de scène. Moi, je fais une étape d'écoute où je leur fais des suggestions. C'est-à-dire que mon boulot, c'est d'être des oreilles extérieures. C'est-à-dire que je vais leur dire, bah, tiens, ce passage, l'image, elle n'est pas très claire. Est-ce que y a moyen de... Voilà, de peaufiner, d'être plus précis. Je sais pas quelle remarque je peux faire. Après, l'artiste ou les artistes, quand c'est musicien plus conteur, ils font leur travail de création. C'est-à-dire que, d'abord, c'est pas parole d'évangile. Ils peuvent ne pas être d'accord sur ces suggestions. On en discute. Et après, c'est eux qui apportent les réponses. Moi, je suis pas artiste. Je pose les questions. Je peux éventuellement donner le champ des possibles pour les aider à trouver la solution, mais c'est toujours eux qui sont maîtres de leur œuvre. Mmh. C'est jamais le label.
D'accord, c'est eux qui donnent le mot final, alors, quand c'est terminé,
oui.
C'est pas vous.
Oui, c'est même si y a un gros travail en direction artistique, c'est toujours pour essayer d'amener le projet le plus loin possible. Mmh. Mais c'est toujours l'artiste qui écrit, c'est jamais le label.
Donc je reviens... Oui, je reviens à ma question précédente. Est-ce que c'est vous qui allez trouver les conteurs ou c'est les conteurs qui viennent vers vous avec des choses concrètes? Comment ça se passe?
Alors, moi j'ai la chance j'ai un beau métier, hein, je fais des listes de contes, j'ai la chance de faire beaucoup de festivals de contes. Je garde un très bon souvenir de Chigny, j'étais passé il y a quelques années, c'était très chouette. Donc je vois beaucoup d'artistes sur scène, c'est un petit milieu, on se connaît bien. Après moi, j'estime que c'est tellement de travail d'aborder un récit, c'est-à-dire que un récit, ça va être 6 mois de boulot pour un conteur. Hein. Donc je me sens pas, moi, de lui dire, voilà, je voudrais que tu travailles tel ou tel répertoire. Donc je suis plutôt en réaction par rapport à des répertoires qui, pour eux, leur font sens sur scène. C'est-à-dire que c'est des répertoires qu'ils ont envie d'aborder sur scène avec le public. Et moi, je m'inscris là-dedans. Un disque de conte accompagne le chemin du conteur, mais n'est pas le premier geste, il est vers la scène. Et on a un petit chemin de traverse qui est le disque. Voilà, sur ce chemin, quand on fait un disque, on pose une borne, voilà, on a fait ça à tel moment. Et puis, je pense que ça permet à l'artiste de se retourner et de dire, oui, c'est vrai, tiens, il y a ça. On travaille sur le long terme, c'est-à-dire que moi, les conteurs avec lesquels j'ai commencé il y a 15 ans, on travaille toujours ensemble. Donc, c'est vrai que ça permet de commencer à poser quelques jalons sur leur chemin.
Alors, vous l'avez dit, vous avez beaucoup voyagé, participé à plusieurs festivals de contes. Alors, j'étais un peu curieuse de savoir, est-ce qu'on raconte partout pareil, en francophonie notamment?
Alors, non. Et le public n'est pas le même. Alors, je connais moins la Belgique. La différence de public la plus flagrante, on va dire, entre la France et puis les autres publics, c'est c'est le Québec. Quand vous allez à un spectacle de conte au Québec, c'est comme un concert rock. C'est des jeunes, ça s'habille en noir, ça boit de la bière et c'est très très festif. En France, on n'a pas tout à fait le même public, c'est un petit peu plus grisonnant, ou alors c'est très jeune et familial. Mais le côté, les contes urbains, les choses comme ça, c'est beaucoup moins répandu en France, parce que le public, je pense, n'a pas la chance de croiser tes récits. Il y a des choses magnifiques là-dedans, mais il faut, encore faut-il avoir la chance de pouvoir les écouter.
Je propose qu'on s'écoute un petit extrait qui s'appelle Nanani. Je vous laisse, Nani, pardon, je vous laisse le présenter.
Alors, ça, c'est un travail avec un, c'est un duo. C'est un duo autour d'un disque qui s'appelle Le Miroir et le Coquelicot. C'est Guy Prunier au conte et Marion Cordier à la musique. Ils sont initialement. Guy Prunier donc, est vraiment conteur, mais il aime bien s'adonner à la chanson, donc c'est un geste très musical. Et Marion, qui était plutôt musicienne, à force de travailler avec Guy, s'est mis au conte. Donc c'est un disque très très chouette. Ça me permettait, moi, de botter en touche quand vous me demandiez d'écouter un conte, et je vous ai proposé plutôt d'écouter, de faire des pauses musicales. Ça m'évite de choisir entre Pierre-Paul ou Jacques.
On s'écoute ça. Voilà, de retour avec Pascal Dubois. J'aimerais qu'on parle un peu de Oui Dire. Est-ce que vous pourriez me parler un peu du catalogue ?
Alors, le catalogue, donc c'est la chose, l'ADN principal de la maison d'édition, c'est une parole de conteur. Donc chez nous, vous allez trouver uniquement des conteuses et des conteurs qui racontent. Et par contre, on essaie de les accompagner sur tous les répertoires possibles. C'est-à-dire que chez nous, vous allez trouver des contes de tradition orale, des mythes, des épopées, de la création, des récits de vie. Le type de récit, en fait, varie suivant les projets des uns et des autres. On essaie de pas avoir d'ornière par rapport à ça. Et c'est comme toutes les maisons d'édition, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on nous propose un projet, comme disent les Québécois, si on tombe en amour avec, on va essayer de le publier. Mmh. C'est vraiment l'essence de Oui Dire, c'est une parole de conteur.
J'aimerais qu'on parle d'une initiative un peu particulière, une initiative qui s'est créée pendant le confinement. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus ?
Alors oui, donc pendant cette étrange période, en fait au tout début du confinement, je crois que c'était la première semaine, je ne sais pas si vous avez ça en Belgique, mais en tout cas en France, nous on a une association de conteurs, les conteurs à l'hôpital, comme les clowns à l'hôpital, c'est-à-dire qu'ils aident les enfants à passer le temps un peu lorsqu'ils sont à l'hôpital pour des choses un peu lourdes. Et donc cette association de conteurs, il y en a plusieurs qui ont des disques chez nous. Et ils se sont retrouvés dans l'impossibilité d'aller voir les enfants. Et passer un petit coup de fil pour, j'avais pas du tout pensé à ça, pour me dire, est-ce que vous pouvez pas trouver une solution pour que, pendant le confinement, on puisse faire écouter des histoires. Donc, on réfléchissait, nous, aux éditions, à qu'est-ce qu'on pouvait mettre en place pour essayer de participer à passer au mieux cette étrange période. Donc, ça nous a donné une direction qui était de mettre en ligne des récits, une sélection de récits. Donc, on a bricolé un truc le week-end avec un camarade qui fait du développement. Et puis, le lundi matin, je les ai rappelés. Je leur ai dit, c'est en ligne, telle adresse. Vous pouvez y aller, vous envoyez le lien à l'hôpital. Et ils peuvent se connecter, pas de souci. Petite parenthèse, j'avais quand même écrit à tous les artistes de WeDire pour leur demander l'autorisation de le faire. C'est-à-dire que je n'imaginais pas faire cette opération sans que les artistes soient d'accord. Et je ne vous cache pas que j'ai plutôt reçu des mails d'encouragement que des questionnements par rapport à ça. Que c'était vraiment, il y avait une énergie qui allait, tout le monde allait dans le même sens. À tel point d'ailleurs que le site a rencontré un gros succès. Le lendemain, on commençait à avoir des problèmes de connexion. Donc, j'appelle la société qui héberge le site. Et puis, la personne que je ne connais absolument pas m'explique qu'il ne comprend pas pourquoi en un jour et demi, on avait consommé 2 ans de bande passante que l'on faisait d'habitude. Je lui ai dit, alors moi, c'est à peu près du chinois. Donc, je lui ai dit, écoutez, on a fait une opération. On fait une opération un peu particulière, on offre des récits à écouter pour le confinement. Parce que il commençait à me dire, il va falloir changer d'abonnement, ça va vous coûter une fortune. Je lui dis, mais sinon, c'est pas possible. Donc, et je lui explique l'opération, puis il me dit, non, mais en fait, c'est l'inverse. On change l'abonnement, on s'en occupe, vous payez rien, on vous suit. Ben, c'était. Et c'est vrai que le confinement, c'était une énergie comme ça, je trouve, où on ne savait pas ce qu'on allait vivre et tout le monde essayait d'aller, de faire quelque chose pour que la communauté vive mieux. Donc, c'est un chouette souvenir, en tout cas, moi, que j'ai sur le confinement. On s'est pris au jeu sur ce truc-là, c'est-à-dire qu'on faisait une programmation toutes les semaines au bout de 15 jours, moi, je commençais à recevoir plein de courriers, plein de mails, plein de messages. Donc, j'ai ouvert la boîte de Pandore, j'ai commencé à dire aux gens, faites-moi des propositions de programmation. Là, j'ai regretté tout de suite parce que ça me prenait une heure par jour pour répondre aux uns et aux autres. Mais c'était génial. C'est-à-dire que ça nous faisait, dans ce moment où on était tous cloîtrés chez nous, un lien très, très vivant avec l'extérieur. Donc, moi, je sais que le confinement a été grandement adouci par cette opération.
Et justement, après le confinement, vous avez stoppé cette action, mais vous n'avez pas pu stopper longtemps.
Non, alors on l'a stoppé parce que nous, on avait un engagement vis-à-vis des artistes. Ils étaient tous d'accord pour que l'accès soit gratuit pendant le confinement. Après, il est normal qu'après le confinement, on ne pouvait pas le faire perdurer de la même façon. C'est vrai que on a arrêté l'opération. Dans la journée, on a reçu 60 mails pour nous dire de trouver une solution. Et puis on le sentait déjà. Enfin, il y avait déjà les prémices de tout ça. Donc, on était déjà en train de réfléchir à qu'est-ce qu'on pouvait essayer de mettre en place. Et on a mis un mois et demi à faire 7 jours, 7 récits, accessible en abonnement. Donc là, il y a une rémunération. On a quand même essayé de garder un forfait, enfin un abonnement le plus bas possible pour que tout le monde puisse en profiter. Alors, je veux bien dire un petit mot sur la rémunération parce que...
Il ne reste que 3 minutes, rapidement.
Alors, comment ça, je suis bavard. La rémunération, il y a beaucoup de choses dans le numérique qui se fait en ce moment, là, depuis des années, notamment toutes les plateformes de streaming. Le problème des plateformes de streaming, c'est que il faut des centaines de milliers de téléchargements et d'écoutes pour gagner 10 euros. Lorsque c'est de la musique et que c'est un tube, ça pose pas de problème. Lorsque vous racontez une histoire, vous l'écoutez pas 150 000 fois. Donc c'est pas du tout adapté à notre forme artistique. Alors nous, on a fait pour le... c'est vrai que pour la rémunération de 7 jours, 7 récits, alors on paye les frais techniques, d'accord, mais une fois qu'on a payé les frais techniques, la rémunération, elle est divisée en deux, entre les éditions et les artistes, et ça permet quand même de retrouver une rémunération qui, on espère, sera un peu plus décente que ces grandes plateformes.
Et si on veut, pour clôturer, en savoir plus sur vos initiatives, sur WeDire, où est-ce qu'on se rend ?
On se rend sur le site web, vous tapez WeDire édition et vous devriez nous trouver sur la toile. Vous pouvez vous rendre aussi sur la page Instagram, la page Facebook, parce qu'il y a pas mal d'infos. Il y a aussi des comptes à écouter à droite à gauche. Et puis j'espère qu'on pourra bientôt se revoir en direct pour les festivals, parce que ça commence à nous manquer un petit peu.
Oui, c'est clair, à tous. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec moi. On se quitte avec Nini, donc une proposition que vous avez faite aussi. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer en quelques secondes ?
Alors, en quelques secondes, non, je ferai le même. Je crois que c'est deux berceuses. Alors, j'ai pas écouté celle de tout à l'heure. Enfin, je n'avais pas le son, donc je ne sais pas laquelle vous avez passé. Mm-hmm. Mais c'est deux berceuses qui sont donc extraits d'un album de Guy Prunier et Marion Cordier.
On s'écoute ça. Merci encore d'avoir été avec nous.
Oui, et puis bon festival à vous.
Kunak gili gili, halu masal.